L'aphasie est une maladie, est une situation tragique. On est incapable d'utiliser la parole, souvent après un accident cérébrovasculaire ou d'autres problèmes de santé. Et il y a quelques semaines, des chercheurs aux États-Unis annonçaient un pas énorme dans le traitement de l'aphasie. Et pour nous aider à comprendre tout ça, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie le professeur Étienne de Villers-Sidanis. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Beauregard.
Vous êtes professeur agrégé au département de neurologie en neurochirurgie de l'Institut de l'Hôpital neurologique de Montréal, qui est un institut relié à l'Université McGill.
Oui, c'est exact. Merci de
Et
m'avoir invité à votre émission.
ben, ça me fait plaisir. Simplement pour mettre le décor, qu'est-ce que l'aphasie?
En fait, l'aphasie, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est cette incapacité qu'on a à pouvoir s'exprimer par la parole. Peut-être qu'on veut le faire par la parole. Évidemment, on peut aussi écrire pour s'exprimer. Mais dans le cas de ces deux découvertes-là, c'est vraiment pour pouvoir s'exprimer en parlant, en fait, pour pouvoir être entendu. L'aphasie, c'est il y a des régions du cerveau qui sont impliquées dans coordonner tous les muscles qu'on a besoin de coordonner pour pouvoir dire ce qu'on veut dire. Et quand on y pense, pour pouvoir s'exprimer, ben, il faut pouvoir bouger un muscle.
Oui.
Il n'y a pas d'autre façon de le faire, en fait. Et ces aires-là dans le cerveau, ces régions-là du cerveau qui sont impliquées dans cette coordination complexe des muscles de la parole peuvent être affectées par diverses maladies, incluant des AVC, des accidents vasculocérébraux, des maladies dégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique, par exemple, ou d'autres maladies qui affectent les parties du cerveau.
Et des personnes qui avaient la parole, bien, la perdent soit petit à petit ou souvent de façon très brusque, là, quand on parle des accidents cérébrovasculaires. Et jusqu'à maintenant, ben, c'était difficile de voir comment rétablir le lien entre la volonté de parler et je dirais, la capacité d'agir sur toute la mécanique.
Oui, c'est exactement ça, en fait, parce que je crois que ces deux articles-là qui sont sortis, en fait, en tandem, les deux de la région de San Francisco,
Oui.
vraiment s'adressent un peu plus à des personnes qui, dans leur cerveau, savent exactement ce qu'ils veulent dire, qui peuvent aussi comprendre que les autres peuvent dire, ce qui n'est pas toujours le cas avec les aphasiques. Dans certains cas, quand toutes les aires cérébrales impliquées dans la parole sont affectées, on ne peut même pas comprendre ce que les autres veulent dire, puis on ne peut même pas trouver les mots
Oui.
pour les
Mais
décrire, ces
là, c'est que
choses-là.
le dictionnaire du langage est absent. Ça, c'est un autre stade
C'est ça. Ça
de...
fonctionnerait pas dans un cas comme ça, mais dans ces cas-ci, ils ont développé des nouvelles technologies, en fait, pour pouvoir aider des patients qui encore étaient capables de réfléchir aux mots qu'ils voulaient dire, mais qui n'étaient pas capables de les articuler, de les prononcer, de rétablir ce lien-là, comme vous l'avez dit, entre le cerveau et finalement, ben, pas les muscles dans ce cas-ci, mais une interface, une machine, un ordinateur qui parlerait à leur place, en
D'accord.
fait.
Parce que les recherches à la fois menées à l'Université de Californie à San Francisco et à Stanford, qui est, je dirais, en banlieue dans le sens large de San Francisco, c'était mené en parallèle et ils sont arrivés à peu près au même résultat.
Oui, en fait, c'est des groupes qui se connaissent. En fait, j'ai moi-même étudié à l'Université de la
D'accord.
Californie. À San Francisco, je connais un des auteurs de Dr. Edward Chang, que je connais quand même assez bien au département de neurochirurgie là-bas. Et les deux ont eu une approche un peu différente. Dans un cas, à l'Université de Stanford, ils ont implanté une grille de microélectrodes qui s'implante directement dans le cerveau, qui rentre dans le cerveau pour aller enregistrer les neurones des régions du cerveau impliquées dans la génération de la parole. Et dans l'autre cas, ils ont placé une petite grille en surface. Donc, ce n'est pas vraiment des électrodes qui rentrent, c'est vraiment plus des petits contacts qui peuvent percevoir les
Sur
ondes
le cuir
électriques.
chevelu, oui.
Mais non, non, en fait, c'est directement sur le cerveau. Donc,
Oh,
c'est quand
OK.
même quelque chose d'invasif.
D'accord.
Et il faut ouvrir le crâne, il faut
Oui.
aller exposer le cerveau. Et dans les deux cas, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose de qu'on peut installer à la
Non,
maison, disons.
n'essayez pas, n'essayez pas.
Non, non, c'est
Voilà.
ça. Et donc, dans les deux cas, par contre, c'est des centaines, des milliers de neurones sur le cerveau qui sont enregistrés en simultané et qui sont décodés avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour qu'un ordinateur puisse s'imaginer, prédire, si on veut, qu'est-ce que la personne veut dire.
D'accord. Ça doit demander un certain entraînement, que la personne puisse d'abord formuler dans son esprit le désir de dire, par exemple, je me lève ou je m'assois ou me voici à table ou j'ouvre la porte ou quelque chose comme ça. Puis là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle va apprendre quel est le chemin parcouru par la parole qui est souhaitée.
Oui, en fait, vous avez raison, ça demande un entraînement. Dans les deux cas, on parle d'au moins 30 sessions d'entraînement. Ce qui est un petit peu magique, c'est que chaque personne, quand on apprend à parler, quand on est jeune, eh bien, on se bâtit des modèles de comment on veut dire les choses dans notre tête. Puis ça peut être différent d'une personne à l'autre. Il y a des recoupements, mais c'est pas toujours la même chose. C'est pour ça que ça prend un certain entraînement pour que l'ordinateur puisse, les algorithmes là, d'intelligence artificielle puissent comprendre quand cette personne-là veut dire telle chose, ça a l'air de quoi l'activité dans le cerveau. D'accord. Donc cet entraînement-là sert finalement à faire comprendre à l'ordinateur que quand quelqu'un veut dire chien, ben, ça a l'air de ça, l'activité du cerveau dans le cerveau de cette personne-là, parce que ça pourrait être différent chez quelqu'un d'autre,
oui, qui pourrait avoir, qui pourrait dire le même mot pour le même concept, le même symbole, le même objet. Un chien, c'est un chien. Mais peut-être est-ce qu'on a appris les connexions neurologiques dans le cerveau qu'ils sont formées quand on était enfant, se sont formées un petit peu différemment d'une personne à l'autre, peut-être dépendamment de la taille du chien ou du sentiment de frayeur ou du caractère rassurant de l'animal. Mais je comprends donc qu'il faut d'abord éduquer ou peupler les données de l'intelligence artificielle qui va apprendre à reconnaître notre volonté.
C'est ça. En fait, une des avancées dans ces découvertes-là, c'est que ce groupe-là avait créé un système un peu similaire, mais vraiment très, très rudimentaire, il y a déjà 3 ou 4 ans, qui prenait un entraînement de 6 mois et qui permettait de dire seulement vraiment quelques mots, une dizaine de mots. Mais là, on parle de la capacité de prédire ce que la personne veut dire avec une assez grande fiabilité, en fait, au-delà de 90% de précision quand on a un lexique de 50 mots, mais ils ont même utilisé aussi un lexique de 100 000 mots avec une efficacité autour de 75%, ce qui n'est pas parfait.
100 000 mots, quand on sait que la plupart des gens ont un vocabulaire qui s'arrête plutôt autour de 250, c'est pas mauvais.
Oh, ben là, quand même. Mais oui, vous avez raison. Je pense qu'avec ces grands lexiques-là, on peut dire tout ce qu'on a envie
exact,
de dire.
Exact, tout à fait.
Et c'est un petit peu ça, c'est l'idée, en fait. Ils voulaient démontrer. C'est vraiment des preuves de concept. Parce qu'on s'entend avec ça prend, c'est très invasif, ça prend une chirurgie. Il y a quand même un aspect d'entraînement. Ce n'est pas un produit qui existe, là, qu'on peut. Le commun des mortels avec l'aphasie ne peut pas avoir cette procédure-là encore, mais à la vitesse où ça avance, ces preuves de concept-là nous montrent que c'est tout à fait possible. Et ça va continuer de s'améliorer rapidement dans les prochaines années, selon moi.
Donc, il s'agira évidemment de trouver des façons moins invasives, je dirais, d'explorer le cerveau et de le relier à une machine d'intelligence artificielle qui pourra comprendre notre désir. Mais c'est proprement extraordinaire d'être capable. Je me souviens, il y a quelques années, on parlait de gens qui étaient dans un coma, qui étaient incapables de bouger, mais qui étaient conscients, qui étaient capables de dire le mot « oui » ou le mot « non » en imaginant qu'ils faisaient un mouvement du bras ou de la jambe ou quelque chose comme ça. Puis à ce moment-là, ben, ça indiquait une forme de patron neurologique spécifique que les gens pouvaient contrôler, même s'ils étaient en fait totalement paralysés. Mais là, on est beaucoup plus loin. Là, on parle de concepts et de mots qui peuvent ne pas être aussi simples.
Mais je crois que c'est un bon point parce que, dans le fond, vous parlez un petit peu de la situation de syndrome d'emprisonnement ou c'est comme en anglais, on dit « locked-in syndrome ». En fait, c'est toutes ces situations-là qui font qu'on ne peut pas bouger les muscles comme on voudrait. Et comme vous l'avez dit, c'est pas juste des maladies dégénératives ou même des AVC, des gens qui peuvent être intubés ou aux soins intensifs, ils peuvent se retrouver dans une situation comme ça aussi. Et l'autre point que vous amenez est intéressant parce que le cerveau est extrêmement plastique. En fait, il est capable d'apprendre, de faire des nouvelles connexions, il est capable d'interagir avec ces interfaces-là aussi. Et je crois que c'est possible aussi que dans ces situations-là, dans ces deux articles-là, ces deux patients-là qui ont été implantés, bien, ces patients-là ont appris à utiliser aussi cette interface-là pour optimiser sa capacité à capter,
tout à fait.
Ce qu'il voulait dire, en fait, parce qu'ils reçoivent de la rétroaction au fur et à mesure qu'ils
tout à fait, oui, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui capte et comprend ce que le cerveau veut dire, mais le cerveau lui-même peut, et comme vous parlez, est en plastique, il peut s'adapter à comment dire plus clairement une chose et de voir que le taux de réussite augmente. Ben, Monsieur Devilliers-Sidani, merci beaucoup. Ce sont des avancées qui vont changer la vie des gens dans pas trop longtemps, dans quelques années, nous l'espérons. Merci.
Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité.